Voilà, voilà une belle musique d'introduction pour recevoir mon invité. Je suis très heureuse de le recevoir à nouveau. Ça faisait quelques années qu'il n'était pas venu sur notre antenne. Kevin Bourges, comédien depuis pas mal d'années, est né à Digne, un vrai Dinois. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Alors je suis vraiment ravie de vous recevoir à nouveau dans notre studio, parce que ça fait peut-être une dizaine d'années.
Une dizaine d'années, oui. On peut dire que je suis un habitué presque.
Ouais.
Mais très content de revenir à nouveau, merci pour l'invitation.
Voilà, ben moi je suis ravie de recevoir un comédien dinois sur notre antenne, puisque ça fait longtemps que vous avez quitté Digne, vous êtes parti sur Montpellier après.
C'est ça, pour poursuivre mes études, oui, ça fait quelques années aussi, hein, plus de 10 cette fois, mais oui. Mais pur dinois, oui, dinois à pure souche, et fier de l'être.
Et vous avez fait une fac cinéma.
J'ai fait une fac cinéma, tout à fait. J'avais fait déjà un bac cinéma à Digne, au lycée d'Avinel, avec M. Jean-Pierre Castagna. Et après, je suis parti à Montpellier faire des études de cinéma, une licence art du spectacle, spécialité cinéma, oui. Et voilà, et c'était très chouette. De belles années.
De belles années. Alors, on va parler de ce métier de comédien qui vous met le statut d'intermittent du spectacle. C'est pas quelque chose de facile de se lancer. Quelles ont été vos motivations?
Le fait de prendre plaisir à travailler. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé me mettre en scène, écrire des sketchs et voilà, faire des parodies. J'étais bercé dans ma jeunesse par les sketchs, les inconnus, les nuls, et tous les humoristes qu'on pouvait voir à l'époque, Eric et Ramzy, tout ça. Et j'ai toujours eu ce goût de me déguiser, de faire des sketchs avec les copains, tout ça. Puis voilà, je me dis, s'il y a moyen d'en faire un métier, ça serait formidable. Et c'est le cas, et je suis très chanceux, et je prends énormément de plaisir à jouer.
Donc vous êtes né en 84, et ça fait déjà... depuis vos 20 ans, vous avez commencé le théâtre?
Depuis mes 20 ans, j'ai eu la chance de commencer assez tôt, oui. Donc, c'est-à-dire qu'en parallèle de mes études, je m'étais inscrit à un cours de théâtre sur Montpellier grâce à un ami qui m'a aidé à franchir les portes, parce que je pense que seul, j'aurais été trop timide pour le faire.
On le salue, cet ami?
On peut le saluer, tout à fait, Clément Baptiste, avec qui j'ai toujours contact. Et voilà, donc il m'a dit, tiens, il y a des cours de théâtre ici avec Michel Saillard, à l'époque, qui donnait des cours sur Montpellier. Donc, il m'a aidé à franchir les portes et puis je ne suis plus jamais ressorti. Donc, j'ai suivi les cours et puis j'ai eu la chance de m'intégrer à la troupe et d'avoir ce professeur, Michel Saillard, qui a cru en moi dès le début et qui m'a permis de jouer l'année suivante, à la rentrée suivante, ma première pièce avec l'équipe professionnelle. C'était une vraie chance de pouvoir débuter dans ces conditions.
Et puis, à un moment où, en fait, vous auriez pu vous contenter de faire que des ateliers théâtre, en fait, vous avez très, très souvent joué.
J'ai eu la chance de pouvoir me former directement devant un public, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un an de cours, après, je continuais les cours en parallèle, mais je pouvais jouer déjà tous les week-ends devant un public, et c'est la meilleure formation possible, apprendre sur le tas et se confronter aux réactions des gens dès son plus jeune âge. Enfin, c'était vraiment une chance et un plaisir immense.
Alors, beaucoup de chemin parcouru depuis, mais est-ce que vous vous rappelez la première pièce que vous avez interprétée?
Bien sûr, forcément, oui. C'était une comédie musicale, s'appelait Le Fabuleux Poulain d'Amélie Destin, en référence évidemment au film culte de Jean-Pierre Jeunet, Le Fabuleux, qu'on connaît.
Voilà.
j'ai pas voulu le redire parce que je vais me tromper. Mais voilà, Le Fabuleux Poulain d'Amélie Destin, ça c'était la pièce qu'on jouait, donc c'était une parodie un petit peu tout ça, c'était une comédie musicale. Donc pour moi qui ne savais ni chanter ni danser, c'était un vrai challenge. J'avais tout juste 20 ans, c'est ma première pièce. Et c'était super avec une équipe très familiale, avec qui c'était un plaisir d'évoluer. Et puis voilà, super expérience. Et on jouait, je crois, du mercredi au samedi à l'époque. Et c'était extraordinaire. Pendant 6 mois, je crois, on restait à l'affiche. Donc voilà.
Et alors ce qui est drôle, c'est que vous êtes plutôt dans le civil, dans la vie de tous les jours. Vous étiez quelqu'un de très discret.
Oui.
Et la scène... Est-ce que ça...
On se révèle, oui, oui.
C'est vraiment... les chevaux étaient lâchés.
Et oui, c'est vrai qu'il y a un lâcher-prise sur scène qu'on n'a pas forcément dans la vie, où ça permet de, ouais, de s'exprimer davantage. Je peux être lâché, évidemment, dans un cadre intime, quand je suis à l'aise et tout, mais c'est vrai qu'après, en société, je suis assez timide et réservé. Les gens avaient du mal, d'ailleurs, à croire que je pouvais faire du théâtre ou faire le clown comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un lâcher-prise sur scène qui est formidable, où on peut tout se permettre. D'ailleurs, je me souviens, c'était une des premières choses que disait notre prof Michel Saillard quand on commençait. C'est voilà, sur scène, on peut tout se permettre. Moi, j'ai 60 ans, et puis se mettait à se rouler par terre, à faire des trucs vraiment extrêmes. On se dit, waouh, on regardait, c'est comme ça. Mais voilà, c'est, ouais, tout est possible sur scène et on le fait avec plaisir. Et après, hop, on redevient timide dès qu'on ressort.
Donc ça, c'était les premières années à la Sicrane, un tout petit théâtre à Montpellier.
Un tout petit théâtre de 60 places, oui.
Après, donc, vous avez continué le théâtre à la Chocolaterie. Alors ça, c'était...
Ouais, c'était une sacrée expérience aussi. C'est-à-dire que j'ai fait deux, trois saisons à la Sicrane, deux, trois pièces. Et j'ai rencontré Christian Fabrice là-bas, qui était comédien implanté depuis un petit moment dans le paysage montpelliérain, qui a eu l'envie de monter son propre théâtre, de voler de ses propres ailes. Et il m'a proposé de m'emmener dans ses bagages. Et donc, nous avons créé notre propre lieu avec d'autres, avec Diabolo à l'époque, Jérôme Dux également, qui faisait partie de l'aventure. Nous avons créé notre propre café-théâtre sur Montpellier, qui s'appelait La Chocolaterie, qui a ouvert ses portes en 2010, où nous a rejoint Céline Cara, après, qui était la première comédienne du lieu, avec qui je travaille encore régulièrement. Et c'était une sacrée expérience de pouvoir avoir son propre lieu qu'on a créé de toutes pièces, monté brique par brique, et d'avoir son lieu dans lequel on pouvait évoluer, proposer nos pièces, nos créations, puis gérer tout, un lieu de A à Z.
Un lieu 140 places, donc combien de...
140 places, oui, oui, ouais, ouais. Alors, autant dire qu'on ne l'a pas vu beaucoup complet, ce lieu, surtout au début, parce que c'est dur, évidemment, comme toute création de lieu. Mais c'était chouette de pouvoir gérer tout, de la programmation, réservation, l'intendance, le ménage. Enfin, voilà, il fallait tout gérer de A à Z. C'était une super expérience très formatrice.
Et les premières pièces que vous avez, puisque vous, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes aussi auteur. Hein,
oui.
Auteur de pièces plutôt toujours
tournées comédie. Ouais. Je sais faire de mieux.
Ouais. Et vous vous rappelez de la première pièce que vous avez écrite?
Oui, bien sûr. Ça s'appelait Noyeux Joël. Et c'était une coécriture justement avec Christian Fabrice, mon partenaire de l'époque. C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on programmait des pièces d'autres auteurs, qui était très chouette et qu'on salue, mais ben, il fallait rémunérer ses auteurs, évidemment, verser des droits d'auteur, ce qui est tout à fait logique.
Coûte cher quand
Sauf
on
que
démarre.
Quand on avait un petit lieu avec très peu de rentrées d'argent, où chaque rentrée d'argent ben, sortait parce qu'il y avait des frais à payer, de travaux, de choses comme ça, ben, on s'est dit, ben, en fait, plutôt que de payer des droits d'auteur, on va plutôt écrire nous nos pièces. Comme ça, on se paiera si on peut, si on ne peut pas, on ne se paiera pas, on est chez nous, c'est comme ça. Et donc, on a écrit nos premières pièces, et c'était Noé et Joël, la première, qui avait bien marché déjà, et c'était un plaisir. De pouvoir s'exprimer. J'avais déjà écrit un petit peu des sketchs, jeune, et puis voilà, pour me faire la main sur mes premières années. Et là, c'était la première fois qu'on écrivait une pièce de A à Z, et on a pris énormément de plaisir, et c'était une belle réussite. Et donc après, on est suivi d'autres, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, on l'a fait.
Et ça fait combien de pièces maintenant écrites
Eh bien, au total, je sais pas si on a une, j'allais dire une dizaine, je dois être à 9 peut-être.
Ouais.
Ouais, peut-être, je pense à 9. Faudrait refaire le compte, mm-hmm. Mais voilà, la dixième sera pour bientôt là.
Voilà. Est-ce que c'est difficile d'écrire Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est de trouver le sujet? Est-ce que les personnages?
Alors pour moi, c'est d'abord de trouver le sujet et puis de prendre le temps. Mais ouais, trouver le sujet, voilà, c'est le plus dur. Le sujet, le squelette, un petit peu la trame, savoir où on va, comment on finit. Et une fois qu'on a ça, après, il faut se lancer et dialoguer, etc. Mais quand on sait déjà où on va, c'est plus facile. Donc trouver le sujet, ouais, pour moi, c'est le plus dur, l'accroche, quoi, le titre, etc. Après, maintenant, le plus dur pour moi aussi, c'est de s'y mettre et voilà, de ne pas procrastiner, parce que ça, c'est pas évident quand on a le temps. Disons qu'à l'époque, à la Chocolaterie, voilà, on devait fournir des pièces, on devait créer en permanence pour renouveler la programmation, parce que voilà. Donc il y avait cette échéance, cette pression de deadline, là, de devoir écrire une pièce pour la rentrée, par exemple. Donc ça me poussait à écrire. Maintenant que j'ai plus de lieu à moi, qu'on attend moins mes pièces, etc., ben, j'ai tendance à procrastiner un peu. Donc voilà, le plus dur, c'est de s'y mettre maintenant, je trouve.
Et est-ce que c'est plus difficile aussi de créer pour 3, 4 personnages que pour 2
Peut-être, oui. C'est vrai que j'ai écrit ma première pièce pour 2, là. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien écrire, oui, avec... J'aime bien quand il y a beaucoup de personnages, quand il y a des entrées-sorties pour donner un peu du rythme, etc. Donc voilà, faire des petites scènes. Et puis, puis varié comme ça. Donc j'ai écrit voilà, une pièce à quatre personnages où on était... Enfin non, quatre comédiens, mais il y avait huit personnages, je crois, qui s'appelait Presque marié, avec beaucoup d'entrées et de sorties, j'aime bien. Et puis voilà, puis écrire pour deux, je l'ai fait aussi, mais du coup, il y a plusieurs personnages aussi qui reviennent, c'est des petites scénettes. Donc voilà, je ne sais pas si c'est plus facile ou plus dur d'écrire...
En tout cas, on sait que pour être comédien intermittent de spectacle, on ne le fait pas pour l'argent en général.
Pas au début, en tout cas, c'est sûr. Oui.
C'est très difficile. Et puis, par rapport justement au déplacement, on reviendra. Vous avez fait le Festival d'Avignon plusieurs fois avec, oui. Avec la comédienne Céline Cara.
Oui, tout à fait.
Comment on trouve pour vendre ses créations aussi pour tourner, c'est pas évident et plus le nombre de comédiens est petit, plus c'est facile de démarcher pour être payé à peu près correctement.
Oui, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors après, on a quand même la chance d'avoir le statut d'intermittent, qui est une bénédiction en France, qui permet de créer, de pouvoir être rémunéré une fois qu'on bénéficie du statut, les temps de création, etc., de répétition qui sont pas payés en temps normal quand on est dans des lieux privés. Mais oui, après, il faut se vendre. C'est vrai qu'Avignon, c'est un peu l'étape obligatoire si on veut chercher des théâtres pour nous programmer. C'est un peu le supermarché du théâtre où chaque directeur de salle vient repérer les spectacles qu'il programmera dans la saison. Donc on a eu la chance de le refaire cette année-là. Ça faisait 6 ans qu'on n'était pas allé. Donc parce qu'on avait deux dernières créations, ma dernière pièce qui s'appelait Cupidon est un con, et la dernière pièce de Céline Cara qu'elle a écrite également qui s'appelle Sortie de couple. Donc on avait l'opportunité d'aller à Avignon cet été en 2025 là, et c'était très chouette. Et voilà, donc après c'est vrai qu'il faut se faire connaître des marchés pour trouver des dates toute l'année. Et en fait voilà, le statut, chaque année on repart de zéro pour trouver nos dates, faire des heures, des cachets, etc. Mais... Enfin, c'est la précarité du métier, mais c'est quand même une chance et puis ça reste une passion. Donc, et pour l'instant, on tourne assez bien, donc on ne se plaint pas.
Donc le Festival d'Avignon, oui, c'est un sacré boulot aussi. On sait que c'est l'été, c'est au mois de juillet, il fait une chaleur épouvantable. Ouais. Et il faut faire ce qu'on appelle une parade, c'est ça
Oui, pour se faire voir. C'est-à-dire qu'à Avignon, il y a 1500 spectacles par jour.
Ouais.
1500 spectacles différents par jour, et il faut convaincre les gens de venir voir le nôtre. Non, je vous jure, venez voir le nôtre, c'est bien. Donc, c'est pas évident du tout. Mais après, voilà, il y a un public un peu pour tout. Nous, on a la chance, je considère ça comme une chance, je sais pas, de faire de la comédie, donc qui est quand même assez populaire et qui attire. Il y a un vrai public pour ça. Il y a un public pour tout, d'ailleurs, je pense. Hein, ça se voit à chaque fois dans les rues, suivant les lieux, etc. Mais, donc, on fait de la comédie. Donc, après, il y a des gens qui viennent pour ça. Il y a les lieux qui sont un peu catalogués aussi. Les gens viennent pour un lieu parce qu'ils savent ce qu'ils vont y voir et ce qu'ils vont y trouver. Et puis, oui, il faut se démarquer. Donc, c'est pour ça qu'on dit 80% de la réussite d'une pièce, ça dépend de l'affiche, du titre, qu'il faut qu'il soit accrocheur pour donner envie aux gens de venir. Souvent, on le voit, les gens, ils regardent les titres et puis ils bloquent sur un titre. Ils disent « Ah, ça a l'air drôle ». Juste sur un titre, voilà. Donc après,
et oui, d'où l'importance de bien choisir le titre.
Ouais, c'est le plus
compliqué. De bien faire l'affiche. Souvent, vous faites... comment vous faites pour l'affiche? Vous faites...
On fait appel à un graphiste, quelqu'un dont c'est le métier, parce que c'est vrai que comédien-auteur, c'est un métier où il faut tout faire soi-même, en général, la communication, etc., la diffusion. Mais voilà, déléguer à ceux qui savent faire pour un élément aussi important que l'affiche, oui, c'est bien. Il faut. Donc on fait appel à des graphistes qu'on connaît sur Montpellier, qui sont très compétents.
Et oui, je me rappelle que vous aviez une affiche qui avait changé, et c'est vrai que l'impact était, enfin, visuel est important aussi, quoi.
Oui. Et bien là, la dernière affiche de Cupidon est un con. D'ailleurs, titre accrocheur. Alors des fois, quand on écrit, voilà, là, j'avais eu l'idée du titre d'abord, du thème, et après, j'avais déroulé derrière, etc. On avait une affiche qui était très jolie, mais bleue, etc. Puis quelqu'un nous l'a corrigé, a mis du rouge, un beau rouge. Et c'est vrai que c'était très visible sur un mur d'affiche, ça ressortait bien, donc avec le titre et cette couleur, voilà, c'était, ça accrochait.
Cupidon est un con, oui, c'est la dernière pièce que vous avez écrite, oui. Et qu'on en parlera tout à l'heure,
oui.
Où est-ce qu'on peut vous voir pour la jouer.
Oui.
Je voulais revenir, donc Avignon, oui, vous l'avez fait 2 fois.
On l'a fait, plus que ça, on l'a fait 5 fois.
5 fois
2014, c'est la première année, première expérience. 2014-2015, et ensuite 2018-2019, et là 2025. On a mis 6 ans à s'en remettre. je dis n'importe quoi, on ne l'a pas fait en 2015. C'était 2014, 2015, on a eu des dates après, on a fait un festival à Nice.
Oui, parce 2018, que ça paye quand même. Vous avez
alors, ça
pu
paye
tourner...
pas financièrement, ça oui, amène des dates.
Ça paye après, oui, après je veux ça. Dire, dans les dates. Oui.
L'objectif d'Avignon, c'est de finir le mois à zéro au niveau de l'équilibre financier. En général, c'est ça, parce que ça coûte très, très cher de faire Avignon, de louer la salle, de louer un appartement, de s'inscrire sur le catalogue, d'imprimer des flyers, des affiches. Enfin, c'est vraiment un sacré budget. Il y a beaucoup de compagnies qui s'en remettent pas, d'ailleurs. Enfin, c'est une vraie prise de risque. Et donc... Après Avignon, l'objectif, c'est d'être à zéro financièrement, de rentrer un peu dans ses frais. Et après, ben, ça paye si on trouve des dates, des lieux qui nous programment derrière. Et c'est là que, voilà, c'est là que c'est intéressant.
Donc, on a vu pour l'écriture des pièces que le plus difficile pour vous, c'était de vous y mettre.
Pour moi, en tout cas, oui, de trouver un thème. Voilà, après, avoir le thème et l'idée, c'est le plus important.
Bon, il peut y avoir des thèmes, c'est sûr, qui ont déjà été vus par d'autres humoristes ou...
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été...
Après, c'est à vous de...
Oui, de trouver un axe un peu original pour se démarquer un petit peu, oui. Ouais.
Qu'est-ce que je voulais vous demander ? J'ai tellement de questions que ça s'embrouille.
On a fait l'historique, on a fait la Cicrane, on a fait la chocolaterie.
Voilà, chocolaterie, ça c'était en
2010-2018, 8 ans.
2018, ouais. Et ensuite... Vous avez été...
Et ensuite, on a volé de nos propres ailes, ouais. On est allé un peu profiter des dates de tournée, pas mal de tournées. Et puis maintenant, je joue beaucoup à la Comédie du Mas du Pont, au Cress, qui est un lieu
à côté de Montpellier,
ouais. Et au Kawa Théâtre, c'est la même équipe. Et voilà, donc on continue à produire, puis à jouer dans des pièces d'autres auteurs aussi, parisiens ou autres. Avec toujours autant de plaisir.
Voilà, toujours autant de plaisir, c'est ça que je voulais vous demander, parce que le métier d'intermittent, c'est quand même pas facile. Enfin, quand on va sur les routes, il faut charger le matériel, la déco.
S'adapter à une nouvelle salle, faire la créa-lumière, etc. À chaque fois avec le régisseur, le technicien sur place. Parce que nous, quand on part, vu qu'on est une petite structure, on part pas avec notre technicien, donc on s'adapte avec la personne qui nous reçoit sur place, donc il doit... apprendre la régie et faire la créa lumière à chaque fois en direct. Donc c'est beaucoup de travail. Après, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on travaille quand même beaucoup sur Montpellier, parce qu'on a la chance donc, d'être résident un peu dans les lieux qu'on vient de citer, la Comédie du Mas ou le Kawa. Donc moi, je joue 80% du temps à domicile, à Montpellier. Donc c'est quand même un luxe aussi de pouvoir partir de chez soi, aller travailler le soir et puis rentrer à la maison directement. Donc c'est très chouette. Et après, il y a quelques dates de tournée de temps en temps qui sont ponctuelles. Et ça reste un plaisir aussi, parce que du coup, on part en week-end dans des lieux qu'on ne connaît pas forcément, qu'on va découvrir. Ça permet de visiter. C'est un peu du tourisme-travail, working holiday, comme on dit. Donc, c'est quand même assez plaisant. Et de découvrir des nouveaux lieux, un nouveau public, de faire des rencontres humaines avec les responsables de salles, et puis de visiter des lieux très chouettes en général. Donc, ça reste un plaisir. C'est du travail, évidemment, mais ça reste un plaisir avant tout. Ouais.
Et on parle de comédie, c'est la plupart de vos pièces, de vos reprises et de ce que vous écrivez. Mais on a pu vous voir dans une pièce un peu plus délicate, Changes.
Changes, superbe.
Vous allez nous rappeler qui est l'auteur de cette pièce.
Metteur en scène, c'est Monsieur Stéphane Hervé, avec qui je travaille de temps en temps sur Montpellier, qui est un super auteur, super metteur en scène. Qui a monté pas mal de classiques aussi de Molière. Et j'ai eu le plaisir de jouer d'ailleurs dans un Molière avec lui, L'Avare. Mm-hmm. Et c'était ma première expérience sur du théâtre classique. Et c'était très chouette aussi de se confronter à ce répertoire-là, un registre que je n'avais pas l'habitude de faire. Et de voir que j'y prenais autant de plaisir aussi. Je ne pensais pas au départ, quand j'étais plus jeune, dire ça ne m'intéresse pas trop ces trucs-là. Et puis en fait, si, c'est très agréable à jouer. Et puis c'est une autre façon d'aborder le métier. Mais voilà, ça reste de la comédie pour le coup aussi. Et puis donc Changes, il y a longtemps, tellement bien avant le titre complet. Oui, c'était une pièce tout à fait différente, contemporaine, une histoire d'amour qui devient très sombre, un peu violente, brutale, et puis touchante, émouvante. Enfin, ouais, c'est peut-être la pièce dont je suis le plus fier en tant que comédien. C'était une vraie expérience aussi de sortir pareil, de son confort et de se confronter à ce texte-là, avec une superbe bande originale aussi, avec une musique portée par David Bowie essentiellement. C'est une super pièce. Et d'ailleurs, je dis beaucoup à Stéphane Hervé que ce serait un plaisir de la proposer à Avignon pour faire connaître davantage ce spectacle qui mérite, qui gagne à être connu. Mais Changes, très, très belle expérience.
Et moi, pour l'avoir vu, comme beaucoup de ceux qui vous connaissaient dans la comédie, C'était pour moi enfin, une révélation, une pièce coup de poing, quoi. Hein,
oui, on ne sort pas indemne.
De vous voir, de vous connaître dans la comédie et tout d'un coup voir comme vous pouvez bifurquer dans la violence et
dans le drame.
Waouh, je me souviens que ça m'avait laissé sans voix.
Oui, ça laisse pas indifférent.
Ça laisse pas indifférent et c'était un vrai bonheur de vous découvrir dans ce nouveau registre.
Merci beaucoup.
Voilà, on vous souhaite... même si la comédie, c'est quelque chose qui vous plaît le plus...
En fait, je me rends compte que j'aime les deux. Je pensais faire de la comédie toute ma vie. Et puis, finalement, se confronter à ce répertoire-là, c'était un plaisir aussi. Voilà, une découverte pour moi, le premier, également. De dire, est-ce que je suis capable de jouer autre chose, de faire ça. Et c'était un vrai plaisir, oui. Et puis, expérience à renouveler prochainement.
Voilà. vous avez donné des cours de théâtre aussi.
Oui.
Ça, c'était par nécessité pour...
Justement quand on était à la chocolaterie, donc c'était notre lieu à faire tourner. C'est vrai que pour un lieu de culture comme ça, un théâtre, c'est bien d'avoir des cours, parce que ça permet de faire vivre le lieu aussi, de faire connaître, de développer les activités. Et donc j'ai donné des cours, j'ai commencé par des cours enfants, des cours ados, et puis des cours adultes pendant 5-6 ans. Et c'était un plaisir à chaque fois, autant les enfants, les ados que les adultes. Voilà, c'est une petite cour de récréation où c'était un moment de partage, d'échange avec ceux qui viennent pratiquer une activité comme ça, qui viennent se dépenser un peu. Et ouais, c'était une très belle expérience à chaque fois.
Et où on apprend comment on improvise
Oui, c'est ça. Moi, je vendais ça comme une initiation théâtre pour ceux qui avaient envie de découvrir cette discipline. Donc, travail d'échange, de lâcher prise, d'improvisation, évidemment. Le but, c'était qu'ils prennent plaisir à venir, voilà, sachant que c'est des gens qui ne viennent pas là pour en faire un métier, pour devenir comédien. Ils viennent là pour... s'échapper.
Quoi que,
oui, ça peut arriver. Hein, d'ailleurs, il y en a. Ben, on a tous commencé, d'ailleurs.
Qui est monté sur les planches la suite déjà de vous avoir vu et d'avoir fait
vous
du théâtre.
Vous pensez à quelqu'un en particulier, j'ai l'impression.
Je pense à Johan.
Ah, Johan Le Savre, oui. Ben,
mon
petit frère, Johan Le Savre, oui. Petit frère de cœur, évidemment.
Oui,
tout à fait, qui avait débuté dans les cours ados avec moi. Et il avait 17 ans. Après, il était venu faire les cours adultes. Et ensuite, on lui avait proposé de jouer dans une pièce qu'on avait écrite à l'époque, encore avec Christian Fabry, qui s'appelait « Saumon et Bolognaise », la pièce. Ne me demandez pas pourquoi. L'importance d'un titre accrocheur, celui-là ne l'était pas, mais il nous amusait beaucoup. C'était le nom de deux inspecteurs de police, voilà, « Saumon et Bolognaise », c'était une enquête. Et on avait repris cette pièce, on avait proposé à Johan de jouer avec nous, et c'était son premier rôle. Et puis maintenant, il est comédien, il vit de ça, il a beaucoup de talent, il fait beaucoup de stand-up aussi, il a fait des...
Alors justement, le stand-up,
oui.
C'est quelque chose... Parlons-en. C'est quelque chose où vous êtes initié aussi
J'ai eu la chance de... Enfin la chance, je me suis donné la chance de m'y confronter un petit peu. C'est un autre métier aussi. C'est très intéressant. Beaucoup de pression aussi. C'est pas le même métier, pour le coup, vraiment.
Et ça consiste en quoi, en fait ?
Eh ben, c'est le fait de s'exprimer seul face à un public, avec un micro, pour raconter des blagues, faire des sketchs, etc. Mais c'est une vraie mise à nu pour moi, parce que là, on se livre nous-mêmes face au public, contrairement au théâtre, où on est caché, protégé derrière un personnage, où en plus, on a des partenaires de scène qui... On peut échanger, puis on est au théâtre dans une configuration avec un quatrième mur. Ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est le mur qui sépare la scène du public, où voilà, il n'y a pas d'interaction, on ne doit pas briser le quatrième mur. En général, on ne s'adresse pas au public directement. Alors que là, en stand-up, on s'adresse directement aux gens qui sont face à nous, qui sont à 1 mètre, 2 mètres, etc. Donc c'est une autre... Quand on est un peu timide et réservé, l'exercice n'est pas facile, mais c'est bien de pouvoir se confronter aussi à ça pour, encore une fois, sortir de sa zone de confort et aller explorer d'autres pistes, d'autres angles même d'écriture, etc. Donc je l'ai fait un peu, pas assez. C'est vrai que là, par manque de temps et de d'envie, sûrement, je ne suis pas retourné. Mais j'aimerais bien approfondir aussi ce truc-là.
Est-ce que ça demande quoi comme compétences supplémentaires
Compétences supplémentaires, je ne pense pas qu'il faille de compétences supplémentaires. Il faut oser. Mm-hmm. Il faut oser se lancer et puis aller
parce
se confronter.
Parce qu'on a l'impression que tout est improvisé, mais non, ça se prépare aussi.
Non, il y a
une trame.
Tout est... Enfin, il y a toute une trame écrite, évidemment. Après, c'est vrai que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est beaucoup d'improvisation, d'interaction des humoristes avec le public, etc. Ça fait partie du stand-up. Mais après, il y a quand même toute une base écrite de sketchs qui vont livrer aux gens, donc dans les comédie clubs. Mais c'est un autre exercice. Voilà, c'est une mise à nu. C'est pas facile, mais Mais c'est tout aussi intéressant.
Donc ça, c'est la partie stand-up.
Oui.
Alors, j'avais envie de revenir sur quelque chose aussi qu'on connaît peut-être peu quand on n'est pas de la partie. Murder Party, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, c'est une autre forme de spectacle, de divertissement qui se joue de temps en temps dans les théâtres. C'est des soirées événementielles, c'est des murder parties. En fait, c'est des enquêtes interactives. C'est-à-dire qu'au début de la soirée, de la représentation, on découvre un corps, il y a eu un meurtre, etc. Et en fait, c'est le public qui va mener l'enquête. Donc c'est un spectacle participatif. Il y a un inspecteur qui va mener un petit peu la soirée. Et donc on présente les suspects, donc trois comédiens en général. Donc on donne leur nom, leur alibi, etc. On trouve des indices, les gens vont récolter des indices sur scène. On énumère les indices et après le public va mener l'interrogatoire. C'est-à-dire qu'on fait venir les suspects un par un sur scène. Et c'est le public qui mène la danse et qui interroge directement les comédiens. En disant où est-ce que vous étiez à cette heure-ci, quel est votre lien avec la victime, etc. Et donc nous on doit improviser, répondre au public en sachant quels éléments on doit délivrer, quels éléments on doit garder pour plus tard, etc. Et donc le public doit résoudre ensuite l'enquête, trouver le coupable. Et à la fin de la soirée, une fois qu'on est passé deux séances d'interrogatoire, on fait la scène de reconstitution. Et donc voilà, ben après, on découvre qui est le meurtrier, on rejoue la scène du meurtre, etc. Et puis le public voit s'il avait trouvé ou pas. Mais voilà, c'est des soirées assez sympas, en général assez festives, avec une vraie interaction pour le coup, et ça marche plutôt bien.
On va faire une petite pause musicale, Kevin Bourges, et on revient avec vous. Vous avez choisi de nous faire écouter Ben Mazué.
J'adore.
Et ça s'appelle « C'est l'heure ». On l'écoute tout de suite.
Mon fils va au collège, il va bientôt partir de la maison. Il est passé de bébé à, disons, jeune, deux secondes. Cet enfant c'est comme les vacances, avec son frère ils s'entendent bien. Souvent je me dis que j'ai de la chance, quand je les vois se marrer dans leur coin. Mon père va bien, il a pas de maladie, on se voit jamais, on a chacun sa vie. On s'aime en vrai, pas de grand conflit, que des regrets, de la nostalgie. J'ai dans mon lit, la femme de ma vie, elle s'était barrée puis elle m'a repris. J'essaie de l'aimer comme il faut depuis, bientôt tout ça, ça va se casser la gueule.
Y'a rien de plus passager qu'un ciel bleu.
Bientôt tout ça, ça va se casser la gueule.
C'est normal, c'est la vie, ça se termine un moment, c'est le jeu.
Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de repeindre le salon. C'est l'heure de prendre des billets pour le Japon. C'est l'heure de se demander ce qu'on ferait si on était moins con. Ce qu'on ferait si on était moins con. Qui on irait voir si on était moins con. Qui pardonnerait si on était moins con. À qui on ferait bien de demander pardon.
Il n'est jamais trop tard pour demander pardon.
C'est plus l'heure pour moi. C'est plus l'heure d'essayer de comprendre. Le monde a muté tellement de fois. Depuis 43 ans que je l'arpente. Il me reste trop peu de vie pour le changer. Trop peu de vie pour le juger. Je veux passer le temps qui me reste à l'aimer. Pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure.
Voilà, on revient donc dans cette émission spéciale autour de Kevin Bourges, comédien dinois, qui a fait son chemin et qui continue de faire son chemin. On a parlé donc de l'écriture, du stand-up, de vos pièces. on a un petit fond sonore du téléphone. On va parler casting, puisque c'est intéressant aussi pour un comédien de caster pour de la figuration ou des petits rôles au cinéma.
Bien sûr, c'est intéressant. Tout est bon à prendre. Oui, à Montpellier, on a la chance d'avoir beaucoup de tournages actuellement. Il y a beaucoup de séries quotidiennes qui se tournent sur Montpellier, dans les alentours. Pas mal de téléfilms, de films aussi. Il y a beaucoup de productions. Donc oui, c'est un plaisir de pouvoir caster, de pouvoir obtenir des petits rôles quand c'est le cas. C'est pas toujours facile. Mais oui, donc ouais, la chance de faire des castings, de faire quelques apparitions dans ces petites séries comme ça. C'est un autre métier aussi, mais c'est bien de se confronter à ça et voilà, de jouer différemment, de jouer avec une équipe de tournage, etc. C'est un plaisir aussi. Donc,
Je me souviens d'un article où on disait que vous aviez donné la réplique à Jean-Paul Rouve.
Oui, c'est vrai, avec ce titre accrocheur de l'article. Oui,
alors que vous, oui, il y a eu quand même une rencontre avec
l'acteur. Oui, j'ai fait 2 jours de tournage sur le film Zaï 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 Zaï, adapté de la BD d'un Montpelliérain, Fab Caro. Qui avait été tourné à Montpellier, donc avec Jean-Paul Rouve, avec Ramzy, Julie Depardieu, il y a un très beau casting. Et voilà, c'était une comédie aussi, une grosse farce populaire, c'était très chouette. Et donc une très belle expérience, et j'avais échangé quelques lignes de dialogue avec Jean-Paul Rouve. Ouais, très belle expérience. Et puis on restait dans un registre comique qui me va bien pour le coup, dans lequel je suis assez à l'aise, donc c'était bien. Mais ouais, donc pas mal de casting sur Montpellier, et, ouais.
Donc Candice aussi
Candice Renoir, Un si grand soleil. Oui, c'est vrai qu'on voilà, a la chance d'avoir beaucoup de productions, comme je disais. Mm-hmm. Donc voilà, je passe des castings parce que j'ai la chance de connaître quelques directrices de casting qui m'appellent et qui me font confiance. Puis après, il faut essayer d'obtenir le rôle. On est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais voilà, donc quand ça arrive, c'est bien parce que ça permet aussi de faire des cachets. Ça rémunère bien et mieux que le théâtre, souvent.
Ah oui.
Oui, et puis... Donc voilà, puis c'est bien d'assister au tournage, d'être dans ce milieu-là.
Et la publicité aussi, c'est quelque chose de sympa?
Oui, c'est chouette. Ben, j'avais commencé comme ça à l'époque, j'avais tourné quelques spots publicitaires. Oui, mais c'est bien.
Et un qui était passé quand même au cinéma, et ça fait drôle, non, de se voir oui. Sur les écrans de cinéma.
Oui, ça fait drôle, c'était une belle expérience. Oui, c'était une publicité qui était censée passer au cinéma. Alors c'était très local, hein. Je crois que c'était dans un cinéma essentiellement à Montpellier, même à Latte, je crois. Et donc on m'avait dit qu'elle passerait là, c'était une publicité avec un gros dinosaure aussi, c'était assez chouette en plus comme tournage, c'était assez marrant. Gros dinosaure automatisé. Et voilà, et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle passerait pendant 5 ans.
Ah oui.
Donc, je ne sais pas, elle est passée très longtemps. Et donc c'est marrant parce que je savais qui allait au cinéma quand je recevais un message. « Oh, je t'ai vu sur le grand écran du cinéma !» Donc voilà. Et c'était assez marrant. Et pour l'anecdote, une fois, j'étais allé avec mon fils au cinéma aussi voir un film et j'avais oublié. Voilà, c'était longtemps après. Et d'un coup, je vois la pub et je l'ai interpellé. Je dis, regarde, c'est papa. Donc même moi, j'étais, voilà, regarde. Et voilà, il s'en foutait, il attendait le film. Mais voilà, non, c'était assez rigolo. Mais...
Donc, casting pour les pubs et les séries, c'est toujours sympa. J'imagine que c'est très différent, oui, de...
Oui, bien sûr.
Le fait d'avoir des caméras...
Oui, toute une équipe. En plus, les séries quotidiennes, voilà, c'est une vraie fourmilière, enfin, comme les films, et ça tourne, et eux, ils tournent toute la journée énormément, ça va très vite, etc. Donc, quand on arrive, c'est jamais évident, surtout quand on est une personnalité un peu timide et introvertie, comme on disait au début. On arrive là, souvent, c'est des tout petits rôles, hein, c'est vraiment des... Voilà, quelques répliques, etc. Donc, faut de suite se mettre dans le rythme du truc, donc c'est pas évident. Et puis oui, c'est une autre façon de jouer aussi, de style très, très neutre, très épuré, contrairement au théâtre où on va exagérer, forcer le trait, etc. Là, ça amène plus de justesse et de retenue. Mais voilà, c'est un bel exercice aussi, et ouais, j'aimerais pratiquer davantage d'ailleurs même.
Alors, par rapport à la compétence de devenir comédien, la mémoire est évidemment très, très importante. Comment on fait pour apprendre, puisqu'il vous arrive d'avoir plusieurs pièces à jouer différentes à la suite.
C'est,
jouer à 18h30 une pièce, à 21h
une autre. Oui, et le week-end suivant, deux autres, ça peut arriver.
Comment on mémorise tout ça, quoi?
Oui, c'est du travail. C'est le travail invisible qu'on fait chez soi quand on apprend les textes ou qu'on fait en répétition qui servent à ça. Et puis après, je crois que la mémoire, c'est un muscle, ça se travaille aussi. Et plus on apprend, plus on ingurgit des textes et mieux on retient, je pense. Mais voilà. Après, une fois qu'un texte est appris et que la pièce a été jouée quelques fois, ça revient très vite. C'est-à-dire que si on a joué une pièce, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de fois, et qu'on la reprend six mois après, En une ou deux répétitions, en général, ça revient. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est ancré dans un disque dur. Enfin, je sais pas, le cerveau est quand même bien fait. Donc voilà, mais c'est vrai que ça se travaille et il faut apprendre. Au début, c'est pas facile. C'est
et des quand il y en a un qui se trompe de réplique, qui vous fait sauter
ouais,
10 minutes de pièce, comment on récupère
On voit dans l'œil du partenaire déjà qu'il y a un... oh là là, comment on va récupérer ça. Ça arrive évidemment très souvent. Enfin, sur le nombre de représentations, bien sûr que ça peut arriver à tout le monde. Après on essaie de retomber sur nos pattes, de reglisser. Alors on se dit, alors qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qui était important, il y avait cette vanne, je l'aimais bien, mais bon, tant pis. Il y a des fois des trucs qu'on laisse passer parce que en fait ça continue, c'est fluide, et puis ça sert à rien de revenir. Et des fois, si on saute 10 pages, évidemment, il faut donc on essaye de faire un petit rétro-pédalage, de repartir quelques répliques après, de remettre le partenaire sur les rails. Donc voilà, ça arrive. Ça fait partie, c'est le plaisir du spectacle vivant, c'est que chaque soir est différent. Donc voilà, puis l'avantage qu'on fait, quand on fait de la comédie, c'est qu'on peut rebondir, essayer d'improviser un peu pour sortir de là. Et puis voilà, quand même, 90% du temps, ça se passe bien. Mais ça arrive.
Et quand on est sur scène, j'imagine qu'au moment du salut, quels sont les moments les plus forts, les plus jouissifs? Des fois, j'imagine que vous n'avez pas toujours envie d'aller, d'aller vous produire.
C'est sûr que c'est un métier passion, ça c'est sûr et certain. J'ai une chance incroyable de faire ça et je le fais avec toujours autant de plaisir. Après, des fois, évidemment, ça reste un métier.
On n'a pas trop envie d'y aller.
Voilà, le soir, il fait froid, c'est l'hiver, on y va. Il se trouve que des fois, il y a moins de monde dans la salle parce que c'est comme ça, c'est... C'est dur pour tout le monde aussi, puis c'est un budget de sortir au théâtre. Donc voilà, il y a des fois où il n'y a pas trop de monde, où il fait froid, où on n'a pas trop envie. Donc c'est comme ça. Mais après, ce qui est chouette, c'est qu'une fois que ça démarre, il y a toujours ce plaisir, cette flamme qui est là, quoi qu'il arrive. Et même des fois, sur des petites salles avec des petites jauges, on fait des soirées incroyables. Parce que le public est là, le public est venu, même s'il n'est pas nombreux, il avait envie d'être là, il prend plaisir et c'est des super soirées. Mais oui, des fois, voilà, faut se forcer un peu, mais après, c'est chouette. Et le plaisir, il est dès qu'on est sur scène et dès qu'il y a quand on fait de la comédie, les premiers rires, etc. Enfin, c'est un bonheur, c'est une récompense incroyable.
Qu'est-ce que je voulais vous dire?
J'ai bien répondu, là.
Oui, oui. Oui, la scène, oui. Et souvent, on peut être porté par la salle.
Oui,
quand le public est très réactif. Même quelquefois aussi, on peut avoir la surprise d'un public qui est moins réactif.
Oui.
Et puis, quand on les interviewe à l'issue du spectacle, ils ont adoré.
Oui, ça peut arriver aussi.
Il y en a qui sont morts de rire, mais à l'intérieur.
Oui, c'est ça. On les remercie, ceux-là. Et oui, encore une fois, c'est la magie du spectacle vivant. C'est que, oui, il y a des fois où ça cartonne, ça rit fort et c'est un vrai plaisir. Et des fois, c'est très calme et voilà. Et c'est là qu'on est content aussi. On parlait du stand-up, là, de pouvoir avoir des partenaires sur scène pour quand même avoir une complicité dans le regard, dans le truc. Dire, waouh, c'est dur ce soir, ouais, c'est dur. Et en plus, t'as sauté 10 pages. Et donc, des publics, des fois plus timides dans la réaction. Et quand on sort, ouais, c'était génial, qu'est-ce qu'on s'est régalé. On n'osait pas rire quand ils ne sont pas nombreux. Ah, on n'osait pas rire. Ah, merde alors. Mais si, il faut. Donc, oui, on a de tout, évidemment, à force de jouer. Donc, on a tout vu, tout connu comme public. Mais ouais. Non, mais c'est chouette. Et puis, des fois, oui, ça peut arriver sur certaines pièces où ça ne marche pas du tout. Et ouais, c'est plus compliqué. Et puis, ouais. Et voilà, et le lendemain, c'est mieux.
Et le timing de la pièce, souvent, ça arrive aussi, enfin, ça vous arrive, je sais, souvent à la chocolaterie ou l'impro.
Ah oui, ouais.
Chacun se permettait de rajouter une vanne.
Ouais,
et
ouais.
Du coup, ça faisait des pièces d'une heure et demie.
Ouais, des fois, c'était très long, trop long. Ben, ça, c'est le plaisir aussi qu'on
faut
a.
Gérer
quand on...
aussi, ça.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai, quand on joue et quand on prend plaisir et qu'on fait de la comédie, qu'on se connaît par cœur avec le partenaire. Et que la situation s'y prête, et on va, improviser, on rajoute une blague,
surprendre
et ça prend,
le collègue,
et l'autre a la répartie, et donc rebondit, et donc ça, en général, ça fait des scènes qui deviennent presque mémorables et qui sont plus fortes presque que le texte original après, puisqu'on en fait un sketch qu'on va garder, si ça marche, on garde. Ça qui est bien en théâtre comique. On peut rajouter une vanne, si elle marche, on la garde. Si elle marche pas, on la garde quand même, parce qu'on dit, ouais, moi je l'aime bien. C'est là l'erreur à ne pas faire. Et donc, c'est vrai que des fois, on pouvait, la pièce peut prendre 5-10 minutes au final de plus.
Oui.
Après, c'est là où il faut être bon aussi en tant qu'auteur, ce qu'on ne sait pas forcément nous à l'époque, mais de réécrire après, c'est-à-dire je retravaille le texte, donc ça, ça marche moins, on peut l'enlever, ça, c'était très bien, on garde, et voilà. Le spectacle évolue au fur et à mesure, à force de le jouer, il y a plein de choses qui évoluent, et souvent les meilleures vannes sont des rajouts né d'improvisation, mais c'est chouette. Mais c'est vrai qu'on faisait des pièces très longues à l'époque. Maintenant, le format, c'est un peu raccourci. Maintenant, voilà, une durée de pièce, c'est 1h05, 1h10 en général maintenant. Et c'est très bien.
Est-ce que vous faites une préparation physique avant la pièce, de la voix, comme un chanteur, chauffer la voix
Ouais, pas trop, peut-être. Peut-être déjà, en prenant de l'âge, je me rends compte que je le fais plus qu'avant. Avant, vraiment, on y allait comme ça, sans filer, c'était très chouette. Après, bah, ça dépend des pièces. Ça dépend aussi de si c'est une pièce qu'on a déjà jouée, ou du coup, il y a moins de pression et moins de trac avant d'aller sur scène, on peut y aller comme ça. Et chauffer la voix un peu, des fois, quand elle est fatiguée, quand c'est l'hiver, parce que c'est quand même notre outil principal, donc c'est important de l'aménager. Voilà, mais non. Beaucoup, quand c'est des premières représentations, quand la pièce est fraîche, que le texte n'est pas encore bien en bouche, là, je vais faire un peu des vocalises, un peu de diction pour, voilà, pour pas trop bafouiller sur scène. Et ouais, moi, j'aime bien faire les 100 pas quand je stresse un peu, voilà, derrière, dans les coulisses, marcher, me chauffer comme ça, ouais. Laisser monter le stress avant de démarrer.
Kevin Bourges, donc comédien, on va parler peut-être de votre agenda, des dates à venir. Il y en a une assez proche.
Oui, oui, oui.
Dans le 13
Quel jour sommes-nous? On a quelques dates de tournée. C'est vrai que je disais, donc, on joue beaucoup à Montpellier, on a parfois des dates à l'extérieur. Donc voilà, on sera la semaine prochaine à Montauban. S'il y a des gens qui nous écoutent à Montauban, pourquoi pas? N'hésitez pas. Donc, on sera avec la pièce Sortie de couple, écrite par Céline Carras. C'est une pièce, on est deux sur scène, Céline et moi-même, qu'on avait donc joué au Festival d'Avignon l'été dernier. Donc, on sera à Montauban le week-end prochain, 5, 6, 7 mars. Ensuite, on sera à Ensuès-la-Redonne, dans le 13.
Dans le Cadran, une très belle salle.
La salle du Cadran, très jolie salle. Ouais. On
avait
le plaisir d'y être il y a 2 ans,
ouais.
Avec Il déménage. Et là, on y va avec Cupidon est un con. Ce sera le 20 mars à Ensuès-la-Redonne. Puis ensuite, retour à la maison à Montpellier pendant 3 semaines avec une pièce qui s'appelle « Un soir sans fin ». On a eu le plaisir de jouer déjà en début de saison à la Comédie du Mas. Voilà une pièce de comédie très chouette, très originale, qui reprend un peu les codes du film « Un jour sans fin », ce film culte avec Bill Murray des années 90, qui a bercé notre jeunesse. Donc voilà, puis après « Borderlines », la Comédie du Mas aussi, une pièce de Céline Cara, on est trois. Sur un thème original aussi, où on est dans un avion, dans un cockpit d'avion qu'on reproduit sur scène avec un très joli décor. Donc voilà, donc après, sur Montpellier pour finir la saison. Et un retour à Montauban, je vois ça, Cupidon est un con également, là, en mai, le 8 mai. Notez tout ça. Et on sera même à Arc, ouais, décidément. Arc, Nord-Pas-de-Calais, là, on traverse la France. Voilà, fin mai avec Sortie de couple également.
Comment vous faites? Vous partez, puisqu'il y a les décors toujours
Oui, alors ça dépend les pièces. Alors c'est vrai que maintenant, on apprend aussi, de nos erreurs, c'est pas des erreurs, mais voilà, Borderlands, on a un gros décor d'avion, etc. Donc c'est vrai que pour exporter, c'est plus compliqué. Enfin, disons que ça oblige à louer un camion, etc. pour transporter. Donc c'est une pièce qu'on n'exporte pas forcément. Sinon, y avait le train. Alors, il y a des pièces où c'est des décors d'appartements. Donc, en général, les lieux qui nous reçoivent peuvent nous fournir un canapé, un bureau, une table basse. Ça fait partie un peu des conditions. Et chaque théâtre a au moins ça à prêter. Et sinon, là, les dernières pièces, Cupidon est un con ou Sortie de coupe, on n'a pas de décor carrément. On a compris que c'était mieux de voyager léger. Donc, on a une grosse valise avec des costumes, avec deux petits tabourets qu'on démonte. Donc, voilà. Donc, on part en train en général, quand c'est loin, sinon en voiture, si... Voilà, ça dépend de la distance, mais voilà, les prochaines dates se font en train et c'est très, très agréable.
Et vous avez un compte Facebook, un Instagram?
Oui. Un compte Facebook, Instagram, perso à mon nom. Et on en a aussi un pour notre compagnie qui s'appelle CK Prod, les initiales CK, comme Calvin Klein, pas cité de marque, mais voilà, CK Prod Théâtre sur Facebook et Insta. Vous pouvez nous retrouver toutes les dates de tournée de notre compagnie.
Alors, est-ce que j'ai oublié de vous poser des questions importantes qui pourraient intéresser nos auditeurs et nos auditrices?
Importantes, je ne sais pas, mais on a fait un joli tour, un joli récap.
Des projets,
pièces dans des tiroirs, il y en a qu'il faut sortir. Voilà, on disait l'important c'est d'avoir le thème. Bon, là j'ai 3 thèmes, donc maintenant il faut prendre le
travail.
Temps.
Ouais.
Donc voilà, des projets, oui, il y aura toute une programmation à faire l'année prochaine. Voilà, le statut d'intermittent qui remet tout à zéro chaque saison. Donc là, on va se pencher sur la saison prochaine, la programmation, voir où on peut aller, ce qu'on peut jouer. Je sais que ma partenaire Céline Cara a fini d'écrire une pièce qu'on aura le plaisir de découvrir et de mettre en scène prochainement, j'espère.
On n'a pas le titre encore.
On a le titre, mais est-ce qu'elle souhaiterait que je le dévoile ? Je ne sais pas encore. Donc voilà, on va, je lui laisserai l'exclusivité de l'annonce. Elle viendra vous l'annoncer peut-être prochainement.
Oui. Céline Cara, elle a aussi... un Facebook.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Son actualité. Oui, 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 oui. Excellente comédienne et excellente partenaire. Depuis,
et auteur, oui, tout à fait.
Bah,
depuis
date.
15 ans, depuis les années Chocolaterie, oui, oui.
Oui, oui.
Partager la scène, plus de, on a joué, on avait compté plus de 45 pièces différentes ensemble. Donc oui, partenaire, binôme, oui.
Et oui, c'est important la complicité aussi quand on joue.
Bah, ça se ressent, oui.
C'est quand même mieux de jouer avec des personnes qu'on apprécie que.
Oui, oui, oui. C'est toujours plus agréable dans n'importe quel métier. Je pense que c'est toujours bien de s'entourer de personnes qu'on apprécie. Et après, il y a forcément des fois où ça matche moins. Et encore, nous, on a de la chance, on a toujours des bons partenaires. Mais,
ah oui, voilà. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. J'aimerais vous en parler. Les droits d'auteur, parce que c'est important. Est-ce que c'est une fierté d'avoir des demandes de comédiens de jouer vos pièces ?
Oui, tout à fait. Oui. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive grâce à Cupidon est un con. Donc, on a joué à Avignon l'été dernier. Donc, on parlait de titres accrocheurs, de thèmes accrocheurs. C'est vrai que la pièce marche bien et puis... On a la chance que le public apprécie aussi répondre présent à chaque fois. Donc elle s'est montée. Là, il y a deux équipes qui l'ont montée dans le nord, nord-est de la France. Donc c'est une fierté de voir son bébé prendre son envol. Ça fait quelque chose aussi, sachant qu'on écrit pour nous-mêmes à chaque fois. Donc là, de voir son texte joué par d'autres, ça fait bizarre aussi.
Au début, ça surprend beaucoup.
Oui, parce qu'on écrit pour nous.
On peut être déçu aussi, non ?
On peut, là, voilà, c'est pas forcément le cas, donc c'est bien. Mais c'est vrai que quand c'est écrit sur mesure pour nous, on connaît la complicité de la partenaire, on se connaît par cœur, on connaît notre clown, notre énergie. Donc là, de voir jouer par d'autres, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est une fierté de voir sa pièce s'exporter. Ça permet de toucher des droits d'auteur aussi, ce qui est jamais... c'est toujours bon à prendre, évidemment. Donc, c'est un plaisir, en espérant qu'elle s'exporte de plus en plus et voilà, qu'elle continue de jouer un peu partout. C'est chouette.
Merci beaucoup, Kevin Bourges, d'avoir fait un arrêt dans votre ville de naissance.
C'est toujours un plaisir de revenir ici.
À Digne-les-Bains. Mmh. Et puis, on espère... ou en tout cas vous voir en Suède, au Cadran, c'est le 20 mars.
Le 20 mars, tout à fait.
20h30, en Suède, la Redonne.
Oui. Ouais. Et puis en espérant venir un jour jouer dans la région, ce serait une belle fierté
bien,
aussi, ce serait génial.
Ce serait bien, surtout que vous avez des pièces qui peuvent tourner à deux.
Oui, tout à fait. Ouais. Allez,
merci beaucoup.
C'est dit. Merci à vous.
Alors, on va se quitter avec une chanson que vous avez choisie aussi, qui donne bien l'énergie. C'est Gossip, c'est ça ?
De Maneskin, oui.
De Maneskin.
Oh, j'adore.
Allez, on l'écoute. Merci beaucoup.
Merci. And acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it all, that's goodbye. So come on, let's try it, just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn.